Alors, peut-être que je pourrais lancer les questionnements en disant, voilà, je ne suis pas coach, donc je ne peux pas entrer dans le détail du face-à-face que le coach va vous apprendre. Donc, il est possible qu'en écoutant ce que je vous ai dit, dont l'intérêt était indiscutable, il est possible que vous ayez senti un décalage par rapport à ce que vous étiez venu chercher. Alors, ce qui m'aiderait beaucoup, c'est que vous formuliez l'éventuel décalage que vous avez ressenti en écoutant mes propos par rapport à ce que vous étiez venu chercher. C'est une façon peut-être indirecte de poser des questions. Ah ben alors moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, par exemple. S'il vous plaît, aidez-moi à reconnaître mes zones d'impuissance.
Quand on va être dans une démarche de remise en question et de réfléchir sur nos pratiques, voire même d'échanger sur nos pratiques avec des collègues, c'est souvent de manière informelle. Et moi, je trouve que ça porte presque à chaque fois ses fruits, mais c'est pas vraiment encouragé. Et d'une manière un peu plus institutionnelle, c'est assez stérile parce qu'on va entre nous être d'accord sur des fondamentaux. On va facilement partager ensemble, on a une bonne équipe ici au niveau insertion, on s'entend tous bien et on est conscient de réfléchir un peu comment est-ce que nous-mêmes on est dans une dynamique pour pouvoir être moteur avec les gens aussi. On les invite à être dans une dynamique, mais ça nous implique et nous on doit aussi travailler là-dessus. C'est difficile de voir comment est-ce que ça ne va pas implicitement provoquer des changements d'organisation, des pratiques, de contexte, de cadre, voilà, notre cadre d'intervention est pas très souple et du coup on s'arrange.
Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, en arrière-plan de votre question, il y a l'idée que le mot d'ordre de désinstitutionnalisation n'est qu'un mot d'ordre et qu'au bout du compte, très souvent, l'institution est là dans son caractère le plus traditionnel et le plus pesant et qu'elle n'est pas prête à reconnaître l'informel. Est-ce à dire pour autant que cette démarche informelle, non reconnue ou mal reconnue, ne produit rien dans le travail d'équipe? C'est encore une fois la question du dispositif imparfait. Oui, vous souhaiteriez peut-être un dispositif dans lequel l'institution reconnaît le travail informel satisfaisant, d'après ce que vous dites, que vous faites. Mais ça, c'est les dispositifs parfaits. Et le dispositif parfait, c'est peut-être dangereux. Alors, j'exagère parce que je comprends bien votre demande qui est d'être peut-être plus soutenu dans ce travail. Mais l'idée que c'est une démarche informelle n'est pas à prendre à la légère. Ça veut dire que peut-être que ça marche aussi parce que c'est informel. C'est une hypothèse. Quelqu'un peut-être peut apporter un complément de réponse à ce que j'ai dit en fonction d'autres habitudes, d'autres travails, ou peut-être de services dans lesquels ce qu'il dit est davantage reconnu ou davantage soutenu. Mais j'entends bien, c'est ce que vous dites, c'est une réalité que j'ai déjà rencontrée. En gros, vous êtes dans un travail qui est fondamentalement organisé par l'idée de processus. Et vous avez affaire à des financeurs qui sont dans l'idée d'étape. C'est une difficulté. Hein. Quand il y a une évaluation des politiques publiques, c'est une évaluation d'étape, rarement une évaluation de processus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un processus? C'est l'idée que quelque chose a bougé dans la personne dont on s'occupe, ou dans quelque chose a bougé. Mais on ne saurait pas dire. En termes d'identification de stade, quel est le stade atteint? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée. Mais je comprends bien l'idée que le contexte, finalement, va en sens inverse de ce travail collectif que vous assumez. Mais je pense que c'est une difficulté, c'est difficile, mais il faut l'assumer, quoi. Enfin, je me permets de dire des choses qui finalement ne relèvent pas de ma compétence d'une certaine manière. Je suis un ex-sociologue universitaire. Je n'ai pas de leçons à donner aux gens qui sont en travail d'insertion. Ce sont des principes sur lesquels je réponds, en fait. Y a-t-il d'autres remarques ou questions ou d'autres décalage que vous avez pu ressentir par rapport à mon exposé. Oui.
Je suis universitaire aussi. Vous avez dit qu'en tant que sociologue, vous aviez participé à l'évaluation du RMI.
Oui, en 88.
Est-ce que les sociologues qui 89. Participent aux évaluations de ces dispositifs sont suffisamment critiques? Parce qu'on pourrait revenir sur la façon d'évaluer. C'est peut-être le rôle aussi de ceux qui évaluent.
Oui.
De dire que ce n'est pas la bonne façon d'évaluer.
Oui, c'est une... ce que vous dites me semble juste. C'est-à-dire que c'est un peu l'engrenage. C'est-à-dire que vous obtenez un financement pour, par exemple, évaluer une politique publique, et il est entendu dans la clé de ce financement que votre travail, même s'il est très critique par ailleurs, mais il va en quelque sorte rester dans le compartiment qui a été fixé. Donc l'absence de critique, je ne la vois pas sur le fait qu'on dit que des sociologues ne disent pas suffisamment « ça ne marche pas, c'est pas comme ça ». Non. C'est plutôt le compartimentage des choses qui devrait être davantage l'objet d'un travail critique. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, on a besoin des institutions, on n'a pas forcément besoin des clôtures qu'elles ont actuellement, c'est ça. Je pense que si nous sommes insuffisamment critiques, nous le sommes au moins autant sur la délimitation de l'observation que sur la qualité que nous évaluons. Enfin, effectivement, moi j'ai rencontré des bilans assez féroces, mais finalement qui ne dérangeait pas tellement le fonctionnement de l'institution parce qu'elle en respectait les cadres. Une institution, c'est souple, hein, c'est beaucoup plus souple qu'on ne le croit, c'est-à-dire que ça encaisse bien. Mais heureusement que ça encaisse, parce qu'on a besoin d'institutions, je le rappelle quand même. Personne n'a de contre-exemple de... Oui, pardon.
Peut-être un mot. Moi, je trouve que votre intervention est vraiment éclairante, mais sur le mode mise en perspective, invitation à la prise de distance, à la réflexivité. En gros, vous nous dites, nous, travailleurs sociaux, je généralise, vous êtes financés par des institutions qui appliquent un modèle autonomiste, réduisant l'autonomie à l'emploi. Dans votre travail, vous prenez une posture, et donc on vous invite à une forme de subjectivation où vous allez attendre des habitus entrepreneuriaux des personnes que vous accompagnez pour les remettre à l'emploi. Donc à la fois vous êtes sujet un peu formaté par l'institution et vous formatez vous-même la personne que vous accompagnez parce que vous projetez sur elle ce que les entreprises, la société attendent d'elle dans le cadre d'un retour à l'emploi. Donc, tout ça en effet, je pense, réinterroge, c'est assez sympathique. C'est vrai qu'on maîtrise pas mal nos zones d'impuissance quand il s'agit de réinterroger comment ça peut nous aider au quotidien. Alors il y a des pistes, mais quand on est dans cette situation-là, travailler sur l'objectif, c'est difficile. Travailler sur le sens de la durée des prises en charge, c'est compliqué. Alors le collectif de pairs, c'est vrai qu'on est aujourd'hui là sur de l'apport de contenu hein, par deux universitaires. Derrière, Sophie et Cathy ont travaillé sur des ateliers. Alors où il y aura également un peu de contenu et de l'échange de pratiques. Donc c'est aussi ce qu'on essaye d'apporter territorialement pour que, de manière peut-être un peu plus opérationnelle, vous puissiez échanger d'un certain nombre de questions ensemble. Mais c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup parce que ça réinterroge, ça met à distance, mais vous avez bien fait de finir sur l'impuissance parce que c'est vrai que sur notre façon de concrétiser, de nous approprier ces dimensions-là pour changer le quotidien de nos pratiques, on se sent souvent, et notamment dans le progressisme en marche actuellement, dont la culture des appels à projets est peut-être encore plus prégnante qu'il y a quelques années, on ne sent pas vraiment les marges de manœuvre qui sont les nôtres pour réinterroger ces modèles-là ou ces contraintes-là.
Je trouve que votre résumé était tout à fait... excellent par rapport à ce qui a été dit. Juste une petite, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que dans votre esprit c'était clair, mais il pourrait y avoir un malentendu. Évidemment que je ne réduis pas l'intervention sociale à un travail ni conscient ni inconscient de formatage. Hein. Il est évident que s'il y a formatage, il est général dans toute la société. Hein. C'était tout le travail de Michel Foucault était de montrer précisément que c'est le règne d'une époque. Bon. Mais effectivement, les critiques des années 70 dont mon collègue a parlé, et à la fin des années 70, des années 80 avec Verdès-Leroux, ont d'une certaine façon découragé le travailleur social dans la mesure où il avait l'impression que, quoi qu'il fasse, il était en train de contribuer à, en quelque sorte, la dissimulation des mécanismes d'exploitation des individus. Et moi, je n'ai pas voulu dire que votre intervention sociale en termes d'accompagnement, puisque c'était le terme du jour, de part en part un travail de formatage sans contrôle. Et j'ai l'impression très souvent qu'au contraire, il y a une très grande lucidité dans votre approche de ce qui est en jeu. Et d'une certaine manière, c'est une chose dont je n'ai pas parlé, mais votre intervention m'y fait penser, d'une certaine manière, il y a une grande intelligence collective des intervenants sociaux, quel que soit, je le prends au sens large, dans le repérage des interstices de la machine. Et alors, on écarte un peu, hein, tout ne passe pas, mais il y a des choses qui passent. Donc je ne voudrais pas conclure sur une forme de constat. Je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, mais je veux prévenir l'idée qu'il y a une... Moi, en tout cas, je n'aborde pas le travail social ou l'intervention sociale à la manière de Jeannine Verdès-Leroux. Ça, certainement pas. Je ne l'emploie pas comme un travail de part en part de contrôle social sans distance. Voilà. Hein, donc que ça soit clair. Oui.
Moi, je voulais compléter ce qu'Arnaud a dit. Je trouve que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Moi, ce que je relève, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut agir. Prendre les gens là où ils en sont, plutôt que, alors, pour ceux qu'ils sont ou là où on souhaiterait qu'ils soient. Hein. Ça, c'est difficile, c'est compliqué, parce qu'on projette tous des choses sur les personnes qu'on accompagne, mais on peut faire ce travail-là. Et puis, la notion d'impuissance, où on est moins impuissant à plusieurs et à plusieurs différents que chacun dans notre coin. Ça, là-dessus, on peut déjà jouer là-dessus. Bon, ça n'empêche les appels à projets, tout ça. Mais dans l'accompagnement qui peut être fait, je pense qu'on a des leviers encore. Et on en trouvera de toute façon, parce que si on ne nous en donne pas, on ira les chercher. Bon, je serai plus positif que toi.
Et rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, donc merci d'avoir dit ça, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, méfiez-vous des dispositifs parfaits. Une fois j'ai entendu dire, ah là là, si vraiment, si on avait les moyens, ce truc-là, ça marcherait. Ou alors, concrètement, si tout le monde faisait le boulot correctement, ça marcherait. Mais c'est parce que vous dites ça que ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Ou est-ce que je... Oui, j'ai pas vu.
Je vais me positionner en tant que travailleur social. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, les trois modernités. Le travailleur social, enfin l'assistante sociale, pour bien la connaître. Du coup, navigue entre ces trois modernités, hein, régulièrement, l'assistante en fonction de la personne, en fonction de son processus d'avancement. Sauf qu'aujourd'hui, on entend parler de nouvelles modalités d'accompagnement, le participatif, la personne doit être acteur. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle modernité?
Non, moi je crois que c'est vraiment la dimension autonomiste qui s'exprime de la façon la plus... Si vous voulez, le problème c'est qu'il y a deux ou trois versions possibles de l'autonomie. Il y a une version clairement néolibérale. Néolibéral avec l'idée que autonomie, ça veut dire diminution des institutions d'intervention. Ça veut dire aussi tarification à l'acte. Ça veut dire marchandisation. Ça peut vouloir dire ça. Ça, c'est une interprétation possible de la philosophie autonomiste. La deuxième interprétation possible, elle est, pardon s'il y en a parmi vous, ce que j'appellerais néolibertaire. Néolibertaire, pourquoi? Ben, c'est l'idée que, précisément, puisqu'il tout déconne et que tout dysfonctionne, il n'y a rien à attendre des dispositifs. Et donc, d'une certaine façon, pratiquer l'autonomie, c'est pratiquer l'autonomie en tant qu'elle est, en quelque sorte, la meilleure façon de résister à l'oppression des institutions. Et puis, il y a une troisième version que j'espère être peut-être plus applicable, qui est celle que j'ai essayé de développer devant vous, à savoir avec l'idée que l'empowerment, c'est pas la panacée, c'est pas le résultat, c'est une étape, c'est un outil, et d'autant plus outil qu'on le verra en termes de ce que vous avez résumé, madame, et non pas en termes de capacité ou de compétence. Bon, voilà, c'est une troisième interprétation. Donc, en réponse à votre question, je crois que tout ce qui est aujourd'hui dit sur le participatif, sur la mobilisation de l'environnement, c'est l'accomplissement de l'idée d'autonomie qui était en quelque sorte embryonnaire. En gros, cette idée-là, elle apparaît, ce que Luc Boltanski appelle la cité par projet. C'est-à-dire, elle apparaît à partir du moment où, dans l'évolution du capitalisme, l'idée que quelque chose obéit à un projet et non à une subvention triomphe, et triomphe partout. C'est-à-dire la réutilisation, le recyclage d'idées de mai 68 par le capitalisme. Donc, d'une certaine façon, par rapport à toutes ces interprétations possibles de l'autonomisme, il ne faut pas vous laisser faire, quoi, en gros. Il y a d'autres façons. J'ai l'air de dire souvent, quand je présente ces trois tableaux de la modernité, que tout ça, ça se vaut, tout ça, c'est pas terrible. Non, je veux dire que, d'une certaine façon, je veux dire que la combinatoire des trois est un dosage difficile, est un dosage effectivement assez circonstanciel. Mais c'est aussi pour dire qu'il y a de possibilité de bâtir des collectifs de travail là-dessus. Parce que finalement, le mot que j'ai employé presque le plus souvent, c'est collectif. Parce que finalement, chaque fois que vous en revenez à l'individuel, c'est comme si vous entriez au confessionnal pour confesser vos fautes. C'est-à-dire, c'est l'idée que la faille dans le travail repose sur finalement un défaut de compétence ou un défaut d'investissement, etc.